Donc ce soir, effectivement, nous allons méditer sur, faire une méditation donc sur le fruit de l'esprit qui est donc manifesté par la patience. Alors, je voudrais tout d'abord remarquer que le fruit donc, dont nous parlons dans ces études depuis plusieurs jours, c'est le fruit de l'esprit avec un grand E. Et donc l'esprit, c'est Dieu, c'est donc le fruit de Dieu. Et donc, si nous voulons chercher des exemples en matière de fruits de l'esprit, bien c'est d'abord auprès de Dieu qu'il faut aller les chercher. Et nous ne devons pas reculer devant ça, car en Éphésiens 5, au verset 1, l'apôtre Paul nous dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu. » Et en 1 Corinthiens 11, au verset 1, il dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis aussi de Christ. » Donc il est naturel pour un chrétien d'aller prendre son exemple directement auprès du Seigneur et de s'efforcer de l'imiter. Donc nous allons regarder des exemples de patience manifestés par Dieu, mais avant de regarder ces exemples dans le détail, on voudrait un peu réfléchir au sens du mot patience. Il y a plusieurs mots grecs qui sont traduits par patience dans le Nouveau Testament. Et on constate par ailleurs que ces mêmes mots grecs ne sont pas toujours traduits par le mot patience, mais il y a aussi le mot persévérance et le verbe supporter. Et donc nous verrons que le mot patience, il peut caractériser notre comportement dans deux situations différentes. D'une part, quand nous sommes confrontés aux autres, et d'autre part, comme nous sommes confrontés aux circonstances. Donc regardons tout d'abord la patience de Dieu, donc quand il est en relation avec les hommes, donc en relation avec les autres. Et donc le mot grec traduit par patience dans cette relation de Dieu avec les hommes, il fait plus souvent référence en français au mot longanimité. Donc le mot longanimité, ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup dans le langage courant. Je trouve intéressant que dans la langue anglaise, la traduction du mot patience, donc si je la remets en français, c'est littéralement souffrir longtemps. Donc la longanimité, c'est souffrir longtemps ou supporter longtemps. Et donc la patience de Dieu, dans sa relation avec les hommes, se manifeste par le fait qu'il les supporte longtemps. Et dans le livre de l'Exode, lorsque Dieu se révèle à Moïse, donc on peut regarder dans nos Bibles en Exode 34, verset 6, un fameux verset, donc Dieu se révèle à Moïse et il dit ceci, il dit l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Donc il y a ici l'idée que Dieu est lent à la colère. Ça veut dire que Dieu supporte longtemps le péché des hommes avant d'exercer envers eux sa colère. Et que n'a-t-il pas dû supporter avec le peuple d'Israël? Dès les premiers jours de l'Exode, dès les premiers jours, et ensuite pendant toute la durée de l'Exode, et ensuite pendant toute son histoire, le peuple d'Israël s'est rebellé contre Dieu. Et Dieu a été patient avec eux. Il les a amenés en terre promise, il les a établis, il leur a donné des juges, il leur a donné des rois, et pourtant ils n'ont pas arrêté de se tourner vers les idoles. Il a envoyé des prophètes, prophète après prophète, ils ne les ont pas écoutés, souvent même ils les ont tués. Près de 1000 ans entre l'entrée dans la terre de Canaan et le moment où Dieu a vraiment laissé le libre cours à sa colère. Il les a d'abord amenés en captivité, le peuple du nord en Assyrie, puis ensuite le royaume de Juda, 100 ans après, chez les Babyloniens. Mais même après ça, Dieu a ramené un reste à Jérusalem, et à nouveau, au bout d'un certain temps, ils se sont rebellés contre Dieu. Ils ont finalement crucifié Jésus, ils ont finalement été détruits par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Mais donc là où Jérusalem a été détruite. Mais Romains 11 nous dit qu'il y a encore une promesse de rédemption pour ce peuple. Donc quand on pense à tout cela, on comprend mieux cette phrase de Paul quand il parle de Dieu. Romains 10, 21, où il dit, donc c'est Dieu qui parle, j'ai tout le jour étendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. Voilà donc la manifestation de la patience de Dieu envers les hommes, qui s'étend sur des milliers d'années et qui continue encore après. Elle continue du temps de Jésus. Jésus, devant le manque de foi de ses disciples, leur dit ceci, en Matthieu 17, verset 17, il leur dit, race incrédule et perverse, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Et donc le mot grec ici traduit supporter signifie supporter avec patience. Et encore dans l'Épître aux Romains, et là ça nous concerne tous, parce que l'Épître aux Romains, il n'est pas écrit seulement pour les Juifs, où il dit aux Romains 2,4, ce verset bien connu, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, donc là les deux mots, ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Maintenant, comment pouvons-nous et comment devons-nous imiter la patience de Dieu? Il y a une parabole pour cela qui est très frappante et qui aide, qui est très utile aussi, qui fait le lien entre la patience de Dieu envers nous et la patience de la même nature que nous devons exercer envers les autres. C'est la parabole du méchant serviteur. Vous vous rappelez, donc on la trouve en Matthieu 18, hein, Matthieu 18, versets 26 à 30. Vous vous rappelez que ce serviteur doit à son maître 10 000 talents, donc ce qui vaudrait l'équivalent aujourd'hui de millions et de millions d'euros, une somme que personne ne serait capable de rembourser. Et donc il est incapable de rembourser cette somme, et voilà ce qu'il dit, voilà ce que nous dit Matthieu 18, je lis à partir du verset 26. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, donc devant son maître, qui est en fait devant Dieu, et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Et il allait le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Donc la dette du serviteur envers son maître, elle est énorme. C'est l'image de notre dette de péché envers Dieu, une dette qu'on n'est pas capable de rembourser. Et en fait, Dieu va bien au-delà de la patience avec ce serviteur. Il ne lui demande pas de rembourser, parce qu'il sait bien qu'il ne le peut pas, mais il la lui remet entièrement. Et le compagnon du méchant serviteur, lui, il ne doit que l'équivalent de quelques milliers d'euros. Et le méchant serviteur refuse d'exercer envers lui la patience et il le jette en prison. Dieu a supporté patiemment notre péché toute notre vie jusqu'à ce que nous devenions chrétiens. Et ensuite, il nous a remis la dette payée par le sang de Jésus quand nous avons mis notre foi en lui. Donc ce que nous enseigne cette parabole, c'est que, à l'image de Dieu, nous devons être patients avec les autres, exactement à l'image de Dieu. Limité dans notre petit domaine, dans notre petite mesure, mais nous devons limiter. Et ce que les autres peuvent nous faire, ce ne sont que des broutilles par rapport au poids de péché que Dieu nous a remis, au poids de dette que Dieu nous a remis. Alors ces dettes, quelles sont ces dettes que nous devons supporter avec patience? Ça peut être plusieurs choses, ce sont souvent de simples défauts dont les gens ne se rendent pas compte, mais qui deviennent irritants. Particulièrement dans un contexte familial ou dans le contexte de l'église ou dans le contexte professionnel où on est souvent ensemble et où les défauts, qui sont des petits défauts, deviennent de plus en plus irritants. Plus gravement, ça peut être des provocations, des agressions verbales, des moqueries de la part d'autres personnes, chrétiens ou non chrétiens, et des gens proches ou pas. Et puis ça peut être des persécutions avérées. Toutes ces choses, la parole nous demande de les supporter avec patience, même les persécutions, puisque 1 Pierre 2, 23. Donc, nous dit en parlant de Jésus, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et donc, on doit imiter l'attitude de Jésus. C'est exactement ce que nous dit Pierre dans ce même passage. Il nous dit que Jésus nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Donc, on doit imiter cette attitude de Jésus qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge. Justement. Alors les épîtres de Paul sont pleines d'exhortations touchant à cette patience des uns envers les autres. Je voudrais vous lire quelques versets, si vous pouvez les suivre avec moi dans vos Bibles. En Éphésiens 4, Éphésiens chapitre 4 au verset 2. Et puis ensuite on regardera Colossiens et 1 Timothée, donc ils sont proches. Éphésiens au chapitre 4, verset 2. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité ou avec amour, c'est le même mot, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Maintenant, nous lisons dans Colossiens, Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et en 1 Timothée, chapitre 6, les versets 10 et 11, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Je voudrais remarquer deux choses sur ces versets. La première, c'est que Paul exhorte les chrétiens à produire le fruit de l'esprit. Il les exhorte à produire le fruit de l'esprit. Cela veut dire que nous ne devons pas penser que le fruit de l'esprit se manifeste sans que nous soyons impliqués. Il est vrai que l'esprit agit abondamment en nous, sans que nous le réalisions. Mais Galates 5 nous montre que nous sommes aussi appelés à agir. Je lis au verset 16, donc de Galates 5, je vous dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y a donc ici un impératif, marchez, et en quelque sorte aussi un choix. Nous savons bien que quand nous sommes provoqués, par exemple, si nous sommes provoqués par quelqu'un, la colère monte en nous, elle surgit en nous, prête à exploser, et lui rendre parole pour parole. Mais le chrétien, il entend en lui une autre voix qui l'appelle à ne pas réagir et qui lui donne la force de contrôler. Et cette force, elle vient de l'esprit. Et le fruit de la patience est ainsi produit. Une autre chose que je voudrais vous faire remarquer dans ces trois passages que j'ai cités, des deux choses d'ailleurs en fait, c'est qu'il n'y a pas une seule manifestation du fruit de l'esprit. Ça, nous le savons déjà. Donc ici, je vais parler de la patience, mais dans chacun des versets, il y en a plusieurs autres qui sont associés. La douceur, la patience, la charité, puis à nouveau la bonté, la douceur, la patience, et la foi, la charité, la patience, la douceur. Et puis aussi, il y a d'autres choses qui ne sont pas citées dans les neuf fruits de l'esprit, mais qui sont des fruits de l'esprit manifestement, comme la miséricorde, l'humilité, la justice. Donc la liste, en fait, des neuf fruits de l'esprit n'est probablement pas limitative. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'amour, donc qui est traduit dans ma traduction souvent par le mot charité, l'amour semble en quelque sorte être la source du fruit de la patience. Et ça, vous le voyez dans 1 Corinthiens 13. Donc 1 Corinthiens 13, également un très fameux chapitre, qui nous dit au verset 4 que l'amour est patient. Donc c'est le mot, c'est notre mot, supporte longtemps, souffre longtemps. Et au verset 5, il nous dit aussi que l'amour ne s'irrite pas. En fait, ça veut dire qu'il y a des traductions qui disent que l'amour ne se met pas facilement en colère. En fait, l'amour est lent à la colère. Et c'est quelque chose que nous avons déjà entendu à propos de l'Éternel, en Exode 34, verset 6. Donc, quand on est provoqué, la patience nous demande de ne pas réagir, mais il ne s'agit pas seulement de serrer les dents et de contenir en soi l'explosion, mais la patience, elle doit provenir de l'amour. Et l'idée, c'est que je ne vais pas réagir à cette provocation, je ne vais pas me mettre en colère par amour pour celui qui m'a provoqué. C'est très différent. On peut contrôler sa colère et garder en soi la haine, puis un jour, la colère sortira, parce que, comme on dit en français, la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais ce n'est pas ça, la patience. La patience, c'est que l'amour produit la patience, il tue cette colère. Et on peut contrôler sa colère par amour pour celui qui offense, et on peut ensuite remettre tout jugement à Dieu. Mais c'est Dieu qui jugera. Mais nous, nous contrôlons la colère, nous sommes patients, par amour pour la personne. Un amour sincère, authentique, qui vient de l'esprit. On pourrait encore en parler longtemps de la patience exercée dans notre relation avec les autres, mais je voudrais aussi, vers la fin de mon message, parler également de la patience devant les circonstances. Elle correspond plus donc au concept de persévérance, d'endurance. Jésus a manifesté cette patience, beaucoup. C'est une patience qui se manifeste en particulier dans les épreuves, et elle est intimement liée à la foi en Dieu. On voit ainsi Jésus, pendant 40 jours dans le désert, tenté par Satan, et qui résiste à cette tentation avec patience. Il aurait pu hâter sa domination sur le monde et se laisser tenter par Satan. Il ne l'a pas fait parce que le moment n'était pas venu. Il n'a pas pris les choses en main. Il a attendu patiemment. Même si ce que Satan lui promettait finalement, c'est ce qu'il aura, c'est le roi du monde, mais c'est de Satan qui veut l'obtenir. On le voit résister aussi au niveau à la tentation, dans le jardin de Gethsémané. C'est vrai, il prie que le Père que s'il est possible, la coupe puisse se retirer, mais il s'en remet à sa volonté. On le voit un tout petit peu plus tard, également, qui aurait pu invoquer 12 légions d'anges pour être libéré de la cohorte, mais il ne le fait pas, parce qu'il sait qu'il aura la victoire, mais ce n'est pas encore le moment. Le moment n'est pas encore venu. Cette patience dans l'épreuve, elle est étroitement liée à l'obéissance à Dieu. Philippiens nous dit que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Mais à cause de cette patience et de cette obéissance, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. De ce point de vue, on pourrait dire que la patience consiste à se soumettre au plan de Dieu, quelles que soient les circonstances, et en confiance en lui que toutes choses concourent au bien de ceux qu'il aime. Donc se soumettre au plan de Dieu, quelles que soient les circonstances, et en confiance en lui que toutes choses concourent au bien de ceux qu'il aime. Et la réaction des hommes, elle est souvent opposée. Ainsi, Abraham n'a pas été patient. Il n'a pas attendu l'exécution du plan de Dieu concernant son fils. Il a voulu prendre les choses en main dans l'affaire de Agar et Ismaël, et nous savons les conséquences désastreuses que cela a eues. Saül a été impatient aussi. Il n'a pas attendu Samuel, tel que Samuel lui avait demandé. Il a sacrifié l'Holocauste à sa place, et à cause de ça, il a perdu son royaume. Nous, les hommes, nous sommes caractérisés par l'impatience. Mais Dieu prend son temps. Dieu prend son temps. Une célèbre missionnaire écossaise au Nigeria, qui s'appelait Mary Slessor, donc au 19e siècle, elle disait, en réfléchissant à la fin de sa vie sur son ministère, qui était très fructueux, elle disait « Christ n'était jamais pressé ». Et on se rappelle comment Jésus, par exemple, a attendu 2 jours avant de se rendre à Béthanie chez Lazare. Alors d'un côté, les disciples, ils ne voulaient pas y aller parce qu'ils avaient peur des Juifs, mais de l'autre côté, de façon sous-entendue, Marthe leur disait de ne pas être venu plus tôt. Ses réactions manifestaient beaucoup de manque de foi et d'impatience, mais Jésus, il avait son plan, il savait très bien ce qu'il faisait. Combien nous sommes impatients avec Dieu. Nous voudrions, notamment quand nous prions, nous voudrions qu'il exauce nos prières tout de suite pour la conversion d'un proche, pour trouver un conjoint, pour être libéré de notre nature pécheresse. C'est le thème d'ailleurs du petit cantique de John Newton que j'ai lu en introduction. Écoutez ce que dit Jacques à ce sujet, Jacques chapitre 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. 3 fois le mot patient dans ce passage. Ça me fait penser aux petits-enfants, quand ils font du jardinage, ils vont planter une graine. On a tous eu l'expérience quand on était enfant, et peut-être nos enfants. Ils plantent la graine et ils se mettent presque devant, tout de suite, pour voir la plante sortir. Mais notre patience par rapport au Seigneur, elle doit être comme celle du laboureur expérimenté, parce qu'il sait, lui, qu'il faut du temps. Il sait que la graine portera du fruit, mais qu'il faut du temps. Et le Seigneur prend son temps. Jacques cite aussi la patience de Job comme un exemple, dans le même chapitre d'ailleurs. Et on pourrait être surpris de ça, parce que Job, il se plaignait beaucoup de comment Dieu le traitait. C'est vrai, mais Job, il n'a jamais perdu la foi en Dieu. Jamais. Malgré les épreuves terribles auxquelles il a été soumis, jamais il a perdu la foi. Et malgré le silence de Dieu, en fait. Et en Job 13, 15, je traduis la façon dont la traduction anglaise le traduit. C'est pas traduit comme ça en français, mais je trouve que c'est intéressant. Il dit cette phrase, « Même s'il me tue, j'espérais en lui. » C'était ça la foi de Job. Il a tenu jusqu'au bout, jusqu'à la fin, il a été patient. Voilà, je vais en rester là. Je voudrais conclure à nouveau en relisant à nouveau ce cantique de Newton, parce que certains d'entre vous ne l'ont pas entendu. Je pense qu'il illustre bien une partie en tout cas de ce que nous avons vu sur la patience. Et ensuite, je prierai et nous aurons terminé. Donc, un cantique de John Newton. J'ai demandé au Seigneur de grandir dans la foi, dans l'amour et dans toute grâce, que je connaisse plus de son salut et que je recherche sa face plus sincèrement. C'était lui qui m'avait appris à prier comme cela, et je crois qu'il a répondu à ma prière. Mais il l'a fait d'une telle façon qu'il m'a presque conduit au désespoir. J'espérais qu'au temps favorable, il me réponde. Il répond en un instant à ma prière, et que par la puissance contraignante de son amour, il soumette mes péchés me donnent le repos. Au lieu de cela, il m'a fait ressentir le mal caché dans mon cœur. Il a laissé les puissances méchantes de l'enfer assaillir mon âme de tous côtés. Oui, et plus encore, il semble qu'avec sa propre main, il était décidé à aggraver ma misère, à contrecarrer tout ce que j'ai désiré, à humilier mon cœur et m'abaisser. Pourquoi, Seigneur, lui criai-je tout tremblant, vas-tu poursuivre ton vermisseau jusqu'à la mort? Le Seigneur répondit, c'est de cette façon que j'exauce les prières, pour la grâce et pour la foi. J'utilise ces épreuves intérieures pour te délivrer de l'égoïsme et de l'orgueil et briser tes projets de joie terrestre, afin que tu trouves tout pleinement en moi. Prions. Seigneur, merci pour ce que ta parole nous enseigne sur la patience. Seigneur, nous reconnaissons combien nous sommes impatients, les uns avec les autres. Nous ne nous supportons pas. Seigneur, puisses-tu développer dans notre cœur ce fruit de l'esprit, le fruit de l'amour, que nous aimions nos frères et nos sœurs, afin d'être patients avec eux, car l'amour est à l'origine de la patience. Seigneur, donne-nous aussi la patience dans les épreuves, la patience d'attendre que ta volonté s'accomplisse, car nous savons dans notre cœur que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Donne-nous, Seigneur, de nous soumettre à ton plan et d'être patients. Donne-nous, Seigneur, de te faire confiance en toutes choses. Maintenant, Seigneur, veuille bénir nos soirées. Et puis, Seigneur, ta parole, porter du fruit dans nos cœurs. Je te prie, Seigneur, en ce nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous.